Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. On a commencé depuis quelque temps déjà, je pense que c'était l'année dernière, l'étude de l'évangile de Matthieu. Je ne sais pas si on fera tout jusqu'au bout, mais en tout cas, on va tenter, si le Seigneur ne revient pas avant, d'aller jusqu'au chapitre 7. Et là, nous sommes dans les chapitres 5 à 7, que l'on appelle habituellement le sermon sur la montagne. Donc Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Et nous sommes presque à la fin du chapitre 5. Je vous rappelle juste que au verset 20, 17 déjà, le Seigneur avait dit: ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et puis, au verset 20, chapitre 5, verset 20, il dit: car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et les scribes et les pharisiens avaient déjà une justice extrêmement élevée d'un point de vue humain. Et Jésus dit que, il dit ici que le royaume des cieux exige une justice bien au-dessus de celle des scribes et des pharisiens. Et il va montrer en quoi est-ce que les scribes et les pharisiens interprétaient d'une mauvaise manière la loi. Donc il dit: je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais il va montrer en quoi l'accomplissement de cette loi était mal amené dans la vie des scribes et des pharisiens. C'est pour ça que nous avons à travers plusieurs illustrations, il va dire souvent: vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Et donc il va donner six exemples, six illustrations de cela. Et on avait vu qu'il avait parlé la première fois de la colère. On a vu qu'il avait parlé aussi de l'adultère, du divorce, des vœux et des serments. Et puis aujourd'hui, nous allons nous arrêter à partir du verset 38 à la vengeance, on pourrait dire un petit peu. Et il dit, nous allons lire ces quelques versets, Matthieu chapitre 5, verset 38. Il dit: vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille avec lui, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Voilà, c'est jusqu'ici la parole de Dieu. Le titre de notre message ce matin, c'est « Les citoyens du royaume ou les disciples » et le principe du renoncement à ses droits. Je crois que c'est de ce que traite un peu ici ce passage que nous avons lu. Connaître ses droits et les faire valoir, c'est ce qui motive tous les individus et c'est ce qui bien souvent nous motive. Quels sont mes droits en matière de logement, de travail, de vacances, d'indemnité, d'allocation? Et tout se décline presque en termes de droits. Le droit à disposer de son corps, le droit à vivre comme on a envie de vivre, le droit au mariage pour tous, le droit à la justice, le droit à se faire respecter, le droit à la liberté. Nous sommes, je crois, formatés à répondre aux différentes situations, sollicitations autour de nous, en érigeant ou en nous accrochant à nos droits. J'ai le droit d'avoir ceci. Et dans l'enseignement de Jésus, que Jésus apporte ici aux disciples sur les exigences élevées de la justice du royaume, il donne comme illustration un domaine ici où, dans lequel la justice des scribes et des pharisiens doit être surpassé. C'est le domaine de nos relations avec les autres et plus particulièrement de nos réactions quand les circonstances nous sont défavorables ou même outrageuses. Il montre que les scribes avaient détourné la loi de Dieu à des fins personnelles et insiste sur l'attitude qui caractérise vraiment les citoyens du royaume, à savoir qu'ils doivent apprendre à renoncer à leurs droits. Les scribes et les pharisiens sont centrés sur eux-mêmes. Mais le disciple, dit Jésus, doit être détaché de lui-même. Il va le montrer à travers l'utilisation que faisaient les scribes et les pharisiens de la loi de Moïse concernant, pourrait dire, la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. La première chose qu'il montre ici, c'est l'inclination naturelle du cœur de l'homme. L'inclination naturelle du cœur de l'homme. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, dit Jésus, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Tout le monde sur la planète connaît ce œil pour œil, dent pour dent. Je crois que vous pouvez voyager dans n'importe quel pays. C'est universellement connu, universellement même utilisé. Et parfois, c'est adapté à toutes les sauces. Hein, on en a fait des équivalents. Rendre la monnaie de sa pièce, par exemple. C'est quelque chose qui veut dire, hein, œil pour œil, dent pour dent. Ce qu'on m'a fait, je fais aussi. Ou on dit, on a un rendu pour un donné. Hein, donc, ce sont des déclinaisons de ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et en prenant l'interprétation ici que faisaient les scribes de cette loi, Jésus met en lumière vraiment l'inclination naturelle du cœur de l'homme. Premièrement, il montre qu'ils ont négligé les objectifs de la loi de Dieu. Quand Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis, il dit de manière implicite que les scribes et les pharisiens ont détourné cette loi. Ils ne l'utilisent pas d'une manière légitime, comme ils auraient dû l'utiliser. Ils ont négligé les objectifs de la loi de Dieu. Œil pour œil, dent pour dent n'est qu'un extrait déjà de ce que Moïse a dit dans Exode, Lévitique et le Deutéronome. Et on peut, vous pouvez lire, on ne peut pas les lire tous, mais vous pouvez lire ces textes, donc dans Exode 21, versets 22 à 25, Deutéronome 19, 18, 20, et puis aussi dans Lévitique, chapitre 24. Alors, si on prend par exemple Exode 21, 22, 25, on peut lire, « Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte, et la fasse accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme, et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, et meurtrissure pour meurtrissure. » Voilà, on pourrait lire à peu près dans les choses dans d'autres endroits. Mais quels étaient les objectifs de cette loi que Moïse a donnée au peuple? Premièrement, il devait servir d'exemple et prévenir d'autres crimes. C'était des lois qui étaient là pour servir d'exemple et prévenir d'autres crimes. Par exemple, dans Deutéronome 19, verset 18, quand il y avait des procès, il est dit, le témoin est-il faux témoin? A-t-il contre son frère une fausse disposition? Alors, vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Voilà, c'est un peu ici, œil pour œil, dent pour dent. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Écoutez ça, il dit, et les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Donc il y avait une vocation à prévenir d'autres actes similaires. Donc c'était le sens déjà dans lequel la loi était donnée. Deuxième objectif était celui de limiter le châtiment à proportion du crime qui a été commis. Quand tu dis œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire que tu ne crèves pas un œil pour parce que tu as été pincé. On rend ce qui est proportionnel. Et donc c'est ce qu'on a lu dans Exode chapitre 21 versets 22 et 25. Donc ici si vous voulez le but de la loi était de limiter les excès qu'il pouvait avoir et vous savez comme moi-même que lorsque l'on rend quelque chose une offense que l'on a faite, on rend davantage beaucoup plus. C'est pour ça que on aboutit parfois à un meurtre pour quelque chose qui a commencé par une insulte. La dernière fois, j'ai vu à côté de chez moi dans la gare pour une histoire de rangement, un père qui dépose sa fille à la gare. Eh bien, quelqu'un d'autre est arrivé derrière, et comme il ne pouvait pas passer, il est descendu de sa voiture, il a estimé, voilà, qu'il était lésé, et il a commencé à frapper le père de famille, à travers la vitre de sa voiture, vous voyez? Et c'est souvent comme ça, si quelque chose nous contrarie, on a tendance à rendre bien plus que l'affliction, que la contrariété que l'on a reçue. Donc l'objectif de la loi était premièrement, on l'a dit, de prévenir, mais aussi de limiter, c'était une loi limitative, limiter ce qui est rendu. Ça n'était pas du tout donner l'occasion de se venger. Mais les scribes et les pharisiens ont donc négligé cette loi, et puis, dans ses objectifs, mais ils l'ont perverti aussi dans ses buts. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de cette loi un droit. J'ai droit à me venger. J'ai droit à crever un œil, je vais dire ça comme ça, pour un œil. Ce n'était pas ça. La loi ne disait pas qu'il faut, d'accord, rendre un œil pour un œil. Il me dit, mais si il faut rendre justice, que cette justice soit proportionnée que la justice soit proportionnée au crime qui a été commis ici. Et une première perversion qu'avaient les scribes et les pharisiens, c'est que ils s'étaient attribués eux-mêmes le droit d'exercer la vengeance, alors que tous ces textes sont donnés dans le cadre d'une justice civile et publique. Par exemple, vous lisez dans Deutéronome chapitre 19, versets 18 et 19, il est dit, les juges feront avec soin, c'est le passage qu'on a lu tout à l'heure au tout début, les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il faux? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors, vous le traiterez comme il avait dessein de le traiter. Cette justice-là était confiée. L'exercice de cette justice était confié aux juges. C'était les juges et les magistrats qui avaient vocation à dire, ben là, ça va être un œil pour un œil, ou bien, voilà, qui, après, pouvaient laisser à la personne lésée le soin de la mettre en pratique. Mais c'est aux juges qu'était confiée cette responsabilité. Donc, cette législation, était confiée aux juges et non, et jamais aux individus. Et les scribes et les pharisiens, bien, avaient perverti cette loi en estimant qu'ils avaient le droit de se venger. D'accord. D'ailleurs, et quand on lit l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, on voit bien que il est clair que la vengeance n'est jamais quelque chose de personnel. Elle n'est jamais laissée à la discrétion d'un individu. Et c'est vrai que nous sommes habitués maintenant dans notre société à nous venger un peu nous-mêmes, à rendre insulte pour insulte, etc. Mais là, dans ce que Dieu donne comme loi à travers Moïse, c'est une loi qui devait être exercée uniquement par des magistrats et des juges. Et jamais l'homme ne devait lui-même se venger lui-même. Et Deutéronome 32, verset 35 dit « À moi la vengeance et à moi la rétribution. » Donc Dieu s'arroge le droit de venger. Jamais à l'homme. L'apôtre Paul le rappelle aussi dans le Nouveau Testament. Il dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il dit que Dieu dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Donc la vengeance et la rétribution sont les prérogatives de Dieu seul. Nous lisons par exemple dans Proverbe 25, verset 21, il dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. » C'est ainsi qu'on est amené à agir à l'égard de l'ennemi, mais jamais de se venger. Il dit, Proverbe 24, verset 29 dit « Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. » Il m'a crevé l'œil, je vais lui crever aussi l'œil. Il m'a cassé un bras, je vais aussi lui casser un bras. Il m'a insulté, je vais aussi l'insulter. Il dit, ne dis pas ça. Il dit, ne dis pas cela. Je rendrai à chacun selon son œuvre. Donc je relis le verset. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Et ne dis pas, je rendrai à chacun selon son œuvre. Et si vous lisez Romains chapitre 12, on trouve vraiment développé par l'apôtre Paul cette question de la vengeance. Donc les Juifs avaient, et les scribes et les pharisiens avaient détourné la loi de Dieu en droit personnel. Et le but de la loi n'est pas d'offrir le droit à la vengeance personnelle, mais c'était d'assurer, on l'a dit, l'équité. Et c'est pour cela que Moïse, tout à l'heure le frère a prié dans sa prière qu'il y avait des villes de refuge, c'est pour cela que Moïse a institué des villes de refuge, c'était pour que le meurtrier, pas pour qu'il ne puisse pas être jugé, mais c'est pour qu'il puisse être à l'abri avant que le vengeur ne l'atteigne et avant que le juge n'ait étudié son cas. Parce que c'est le juge qui devait étudier le cas. Donc avant que naturellement la vengeance et personnellement la vengeance soit portée, il pouvait courir et atteindre une ville de refuge en attendant d'être jugé. Parce que Dieu ne laisse pas, bien sûr, le crime impuni. Donc Jésus reconnaît que cette loi est bonne, mais il dit que les Juifs n'en faisaient pas un usage légitime. Il l'utilisait pour justifier des représailles personnelles. Et ainsi est la disposition, l'inclination, on pourrait dire, naturelle du cœur de l'homme. C'est de se saisir de la loi, souvent de la loi de Dieu, comme un prétexte pour un droit personnel. Quand Dieu dit quelque chose, eh bien, on peut s'en servir comme si c'était, on avait le droit de l'utiliser contre les autres. C'est exactement ce que faisaient les Juifs. Cette loi qui avait été destinée aux juges a été récupérée et puis on en a fait un droit de vengeance personnelle. Et Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Voilà comment est-ce que c'était utilisé. Moi, je vous dis comment cette loi doit être utilisée. Et donc, deuxièmement, Jésus montre ici la disposition surnaturelle du disciple. La disposition surnaturelle du disciple. Il dit, moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Le contraste, il est quand même extrêmement frappant. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Résister, ça veut dire ici tenir tête, affronter, faire face. Et il est important de bien saisir ce que Jésus dit ici. Beaucoup se sont servis de ce passage comme fondement pour des mouvements pacifistes. Il ne faut faire aucun mal, il ne faut pas tuer, il ne faut pas résister, donc il ne faut pas qu'il y ait de policiers, il ne faut pas qu'il y ait d'armée, il ne faut pas qu'il y ait la guerre. Si quelqu'un travaille dans un endroit où on produit des armes, on dit ben ce n'est pas un chrétien, parce que c'est pas ce que Jésus dit ici. Il ne dit pas qu'il ne faut pas avoir d'armée, il ne faut pas avoir de policiers. C'est lui qui a établi les magistrats. Et l'apôtre Paul rappelle même que le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, il dit. Il dit, mais si tu fais mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Le magistrat porte l'épée. Avec une épée, on ne caresse pas, je crois. Donc ça veut dire que c'est la volonté de Dieu qu'il y ait la police, le magistrat, le juge, les armées, etc. Et on est bien content quand on marche dans les rues et qu'on est protégé par des militaires contre les attentats. Donc ici, il ne faut pas prendre la parole de Jésus pour dire, voilà, c'est le pacifisme à tout va. Ce n'est pas du tout le sens de l'enseignement de Jésus. D'ailleurs, Jésus ne s'adresse pas au gouvernement civil, il s'adresse aux disciples. et il ne parle même pas de situation particulière, il parle de disposition de cœur. C'est ça qui est important de retenir ici. Donc l'enseignement de Jésus n'est pas non plus un appel contre la guerre. Abraham a armé 318 de ses plus braves serviteurs pour aller livrer guerre à Kedor Laomer. Vous vous rappelez de cela dans peut-être Genèse chapitre 14. Et il a délivré ainsi son neveu Lot. Donc il est évident que, bien sûr, si notre famille est en danger, quelque part, sous la menace d'un individu, il ne faudra pas dire « Dieu a dit de ne pas résister aux méchants et je laisse le méchant massacrer ma famille ». Ça n'a pas de sens. Au contraire, on sera accusé de non-assistance à personne en danger. Notre première responsabilité est de prendre soin des nôtres. Si un homme n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Et ce soin, c'est le soin de toutes sortes que l'on doit avoir. Donc Jésus ne s'adresse pas, je l'ai dit, aux structures de la société, ni même à n'importe quel individu, mais aux véritables chrétiens, aux disciples, aux citoyens de son royaume. Il parle donc de cette disposition surnaturelle qui devrait animer et même caractériser son disciple quand il est personnellement atteint, attaqué et même offensé. Et je vous dis de ne pas résister aux méchants. L'inclination naturelle, c'est de résister aux méchants. Lorsque je reçois un coup, j'en donne un. Immédiatement, si possible. Mais Jésus dit, la disposition surnaturelle qui agit dans le cœur du disciple le pousse à ne pas résister aux méchants. Et il va expliquer à travers plusieurs exemples ce que cela veut dire. Comment ne pas succomber à cette inclination, à cette tendance naturelle. Parfois, nous pouvons dire, mais si je ne fais rien, c'est que je suis lâche. Celui qui ne réagit pas, c'est un lâche, c'est un mou. Mais Jésus dit au contraire, il faut une force particulière pour ne pas résister. C'est plus facile de résister que de ne pas résister. C'est plus facile de lutter contre le méchant que de ne pas lutter. C'est comme ça que nous sommes faits. Et donc Jésus donne ici des exemples du verset 39 au verset 42. Et notez, chers frères et sœurs, que les situations, Jésus place l'homme dans les situations qui le contraignent et qui peuvent même être une offense pour lui. Il dit, on te frappe. Si quelqu'un, verset 39, si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre. Verset 40, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de 3. C'est 3 qui est offensé, comprimé, compressé, comme vous voulez. Et ce que Jésus décrit ici, ce n'est pas tant ce que tu dois faire, mais comment ton cœur doit être disposé dans de telles situations. Et donc, il faut bien comprendre ce que Jésus dit ici. Ces situations ne sont pas des situations à prendre et puis à littéralement, puis dire, voilà, ben, si quelqu'un me frappe sur la joue, je dois aussi vraiment tourner l'autre et puis lui demander de me frapper sur l'autre joue. C'est pas ce que Jésus est en train de dire ici. Mais quand il dit si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre, je crois qu'il dit que la disposition surnaturelle qui agit dans le cœur du croyant est une disposition qui le pousse à renoncer à son droit à l'honneur. C'est ça qu'il exprime ici. Jésus ne dit pas, quand quelqu'un te frappe, tu dois te faire frapper sur l'autre joue. Il dit, tu dois avoir une disposition telle que tu refuses de répondre à cet acte. Et ça pourrait presque être interprété comme si tu proposais l'autre joue à la violence. Jésus a été frappé. Il a reçu un soufflet d'un huissier lors de son procès. Il n'a pas dit, voici l'autre joue, frappe là. Il a dit à cet homme, si j'ai dit quelque chose de mal, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si je n'ai rien dit de mal, alors pourquoi me frappes-tu? Voilà. Mais, voyez, il n'a pas non plus rendu la gifle hein, qu'il a reçue. Mais dans son attitude, il n'a pas cherché à venger, on va dire, son honneur. Parce que recevoir une gifle, c'est pas qu'est-ce que c'est de nos jours, mais recevoir une gifle à cette époque, et notez que il est dit de recevoir une gifle sur la joue droite, hein, et des spécialistes nous font remarquer que pour gifler sur la joue droite, en général, les gens peut-être étaient droitiers, ou je sais pas, mais si c'est quelqu'un en face de vous, pour le gifler sur la joue droite, vous pouvez pas faire comme ça, vous êtes obligé de faire avec le revers de la main. Et oui, si la personne est en face de vous, et là, c'est un geste extrêmement insultant. Recevoir une gifle de cette manière, c'était une insulte à cette époque et dans ces pays. Donc, Jésus est en train de parler de l'insulte qu'on pourrait recevoir et comment on réagit face à cette insulte. Jésus enseigne donc que, contrairement aux scribes, le véritable chrétien doit être animé d'un esprit qui ne cherche pas à venger son honneur quand il reçoit une affliction. C'est la recherche de cet honneur bafoué qui nous pousse parfois à répondre par des paroles dures lorsque nous recevons une parole dure. On est blessé et on a l'impression qu'on nous a humilié. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à humilier. Parce que notre honneur a été bafoué. Et nous avons droit à l'honneur. J'ai droit au respect. Et souvent, vous voyez les gens, quand ils s'invectivent, ils disent « Tu me respectes hein ?» On estime qu'on a le droit au respect. Et Jésus, avait-il le droit au respect? Lui qui a créé ce huissier qui l'a frappé. N'avait-il pas droit au respect de cet huissier? Il a été insulté avec une gifle. Il n'a pas rendu cette gifle. Il n'a pas cherché à dire à cet homme, tu dois me respecter. Je suis le Créateur. Ne le sais-tu pas? Il n'a pas agi de cette manière-là. La Bible dit que Jésus, au contraire, il a su s'abandonner entre les mains de Dieu. Voilà le Créateur, donc, il est dit, dans l'apôtre Pierre dit, que Jésus a été maltraité, humilié, mais qu'il n'a point ouvert la bouche. Il dit, dans sa bouche, il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il s'en remettait à celui qui juge justement. Il ne rendait pas insulte pour insulte, menace pour menace. Donc, il ne cherchait pas à venger son honneur, mais il se remettait à celui qui juge justement. Il a su abandonner la vengeance entre les mains de Dieu. Et s'en remettre à celui qui juge justement, c'est aussi l'enseignement que nous retrouvons dans Romains chapitre 12, chez l'apôtre Paul, quand il dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Laissez agir la colère de Dieu, hein, pas la mienne, parce que la mienne, elle n'accomplit pas la justice de Dieu. Et nous pensons souvent qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si je ne me venge pas moi-même, ça ne sera pas bien. Mais ici, Paul dit, ne vous vengez point vous-même. Il ne dit pas que la vengeance est une mauvaise chose. Dans Apocalypse, on lit que les saints disent, mais jusqu'à quand vengeras-tu, hein, Seigneur? Donc, Jésus ne dit pas que la vengeance est une mauvaise chose. Il dit que la vengeance personnelle que je vais appliquer, moi, est une mauvaise chose. Et que l'attitude qui sied au véritable disciple est cette attitude qui ne cherche pas à brandir son droit à l'honneur. L'apôtre Paul même a subi aussi des offenses. Hein. Et à Timothée, il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il ajoute, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Voyez, j'ai reçu beaucoup de tort de la part de cet homme, mais il l'abandonne entre les mains du Seigneur. Dieu lui rendra selon ses œuvres. Ce n'est pas à moi de rendre selon ses œuvres. C'est l'attitude de David lorsqu'il avait plusieurs fois l'occasion de tuer Saül qui le poursuivait. Il a dit qu'il ne porte pas la main sur celui que Dieu a oint. Dans Proverbe, chapitre 24, verset 29, nous avons lu, il dit, « Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait, je rendrai à chacun selon son œuvre. » C'est-à-dire que nous ne devons même pas penser à l'once d'une vengeance. Ne dis pas dans ton cœur, c'est-à-dire ne conçois pas dans ton cœur, n'aspire pas après un temps favorable où tu pourras mettre ta vengeance à exécution. Il y a parfois une certaine jouissance à retarder un peu sa vengeance. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Ça veut dire quand l'autre ne va pas s'y attendre et que je vais tomber sur lui, là, ça va lui faire l'effet que ça doit lui faire. Mais le proverbe nous dit ici, ne dis même pas ça en ton cœur. Ne dis même pas que tu vas trouver un temps favorable où tu vas pouvoir te venger. Il y a un auteur, il s'appelle Arthur Pink, qui a dit ceci. Il a dit que le chrétien ne doit ni désirer, ni déterminer quelque chose pour laquelle il ne peut pas demander dans la foi à Dieu de l'aider. Si vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous aider dans cette entreprise-là, ce n'est pas la peine d'y penser, il dit, ni de la concevoir. Est-ce que je peux dire franchement, Seigneur, montre-moi comment je peux me venger de ce frère? Difficile de faire une telle prière. Il dit, si tu peux pas faire une prière comme celle-là, ne pense même pas à la vengeance. Il dit, et assurément, il n'y aurait aucune raison de s'attendre à ce que le Seigneur l'aide dans l'exécution d'une vengeance malveillante. Non seulement il ne doit pas demander à Dieu ce qu'il ne peut pas demander, il peut pas même concevoir dans son cœur ce qu'il ne peut pas demander à Dieu dans la foi, dans la prière, et en même temps il ne peut pas non plus compter sur l'aide de Dieu dans l'exécution d'une telle chose. Cette disposition surnaturelle aussi, deuxième exemple que Jésus donne ici, montre la disposition à renoncer à son droit légal. Renoncer à la vengeance, mais renoncer aussi à son droit légal. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. À l'époque où Jésus raconte cela, peut-être pour nous ça ne veut pas dire grand-chose, mais les gens avaient, la tunique c'était une sorte de sous-vêtement, et puis ils avaient par-dessus un manteau. Mais les gens n'avaient que une ou deux tuniques, à peu près. Et puis un seul manteau qu'il utilisait aussi pour comme couverture pour se chauffer la nuit. Et personne n'avait pas une garde-robe comme certains ont, avec 25 paires de chaussures, X pulls, des manteaux d'hiver, manteaux d'été, manteaux d'automne et de printemps, plus les manteaux d'intersaison. Et puis en plus de ça, les manteaux sont de toutes les couleurs, parce qu'il faut que ça soit assorti avec la paire de chaussures. On pourrait presque remplir un magasin entier avec les vêtements que nous avons. Mais à l'époque, ça n'était pas le cas. Ces gens avaient une ou deux tuniques et un manteau. Et vous vous rappelez peut-être de cette prière que Paul fait à Timothée quand il lui dit, quand tu viendras, il est en prison, emprisonné à Rome, il dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé chez Carpus. Il n'en avait qu'un. Il avait froid et lui dit, tâche de me rejoindre avant l'hiver. Et amène-moi ce manteau-là. Et dans la loi de Moïse, dans Exode chapitre 22, versets 26 et 27, lorsque les gens avaient un procès, parfois ils n'avaient pas d'argent pour payer, donc ils pouvaient laisser payer avec des vêtements, et laisser parfois même leurs vêtements en gage. Mais la loi de Moïse, sachant que le manteau c'était souvent le seul que la personne possédait, Dieu avait mis une disposition pour que ce manteau soit rendu. Et le texte dit ceci, si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, et tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est la seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Il dit, tu ne gardes pas son manteau. Si tu l'as pris en gage, donne-lui, parce que c'est tout ce qu'il a pour se couvrir. Eh bien, Jésus dit, va plus loin que ça. Il dit, si quelqu'un veut plaider avec toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. C'est-à-dire, tu as le droit de réclamer le manteau. Tu as le droit. C'est la loi. Et il dit, mais tu es dans une disposition telle en tant que chrétien que tu peux même passer par-dessus ce droit et renoncer à ce droit. Fût-il légal. Il dit, même si nous avons des droits qui sont légalement nos droits, la justice le reconnaît, tout le monde le reconnaît. Ça n'est pas pour cela qu'il faut insister là-dessus. Il dit que la disposition surnaturelle du cœur du disciple le pousse à renoncer à ses droits, même ses droits les plus légaux. Les Corinthiens avaient droit de porter plainte au tribunal, vous vous rappelez? Et c'est ce qu'ils ont fait. Et l'apôtre Paul leur dit, un frère plaide contre un autre frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Il veut dire, oui, c'est votre droit de traduire les autres en justice, mais souffrez plutôt le dépouillement que d'exercer vos droits, même s'ils sont légaux. Cela aurait été autrement plus bénéfique spirituellement pour les personnes, pour l'Église, pour l'édification de l'Église, et puis aussi pour le témoignage de l'Église dans le monde. L'apôtre Paul lui-même disait, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? C'est-à-dire, n'avons-nous pas le droit de nous marier? Il dit, comme les autres frères, les autres apôtres et frères le font dans le Seigneur, est-ce que nous n'avons pas ce droit-là? Ou bien, est-ce moi seul et Barnabas qui n'avons pas le droit de ne point travailler? Donc il dit, nous avons des droits qui sont des droits légaux. J'ai le droit de recevoir un traitement pour l'évangile que je prêche. J'ai le droit de prendre une sœur pour me marier. Ce sont des droits. Mais il dit, il ajoute qu'il n'a pas usé, il dit, nous n'avons usé d'aucun de ces droits, qui étaient des droits tout à fait légaux. Par froid, nous brandissons notre droit à l'égalité de traitement. Il dit, n'avons-nous pas le droit d'avoir une sœur comme les autres frères? Et nous brandissons nos droits à l'égalité de traitement. Nous voulons être traités comme les autres. Nous estimons que nous avons le droit d'être traités comme des autres. Si on fait quelque chose à l'égard de quelqu'un et on n'a pas fait à l'égard de moi, je dis qu'il y a une injustice. Parce que j'ai le droit d'être traité également que les autres. Et si on fait quelque chose dans un cas ici et on ne le fait pas dans l'autre cas là-bas, qui semble être similaire, on dit « Ah, il y a de l'injustice ». Tout le monde doit être traité sur le même pied d'égalité. Et on se dresse en justicier. Paul dit que même si on a des droits, on doit garder la liberté de ne point user de ces droits-là. Et Jésus dit que la disposition surnaturelle qui agit dans le cœur du disciple le pousse même à laisser son manteau, alors que la loi l'autorise légalement à garder son manteau. Il est prêt à faire même cela, parce qu'il dit, je n'ai aucun droit. Paul dit, nous n'avons pas usé de ses droits. Le disciple de Christ non plus ne doit pas être esclave de ses droits. Paul dit, Dieu ordonne aux hommes qui prêchent l'évangile de vivre l'évangile. Il le dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 14. Il dit, c'est un commandement de Dieu. Dieu l'ordonne. Et il dit, moi, j'ai le droit de faire ce que Dieu ordonne. Mais je ne le fais pas. Je n'utilise pas ce droit. Parce qu'il avait un autre but, un autre objectif. Il dit, je n'ai pas usé de ce droit parmi vous. La disposition spirituelle aussi, troisièmement, la disposition à offrir toujours plus. Disposition surnaturelle, toujours plus. Verset 41, si quelqu'un te force à faire 1 000 avec lui, fais-en 2. Le soldat romain qui occupait la Palestine à l'époque avait la possibilité d'exiger que quelqu'un porte leur bagage. Imaginez que vous vous baladez dans les rues de Paris, et puis vous voyez un militaire avec son sac à dos, c'est trop. Il vous dit, hé, toi, viens, tu me portes ça pendant 1,5 km. Je crois que nous allons dire, hé, oh, tu m'as vu, non? Hein, je pense que nous allons réagir comme ça. Mais à l'époque de Jésus, le citoyen occupé, le juif, était obligé de le faire. C'était la loi romaine. Il devait le porter pendant un mille, c'était à peu près 1,480 km, donc à peu près 1,5 km, il devait porter ses armes. C'était une exigence. Il devait se plier à cette exigence. Et Jésus dit, si quelqu'un te force à le faire, c'était l'armée occupante, hein, c'était pas, il le faisait pas de bon gré. Les Romains n'étaient pas agréablement accueillis chez les Juifs. Et quand il devait faire cela à l'égard des Romains, il devait avoir le cœur qui bouillonnait. Hein. Il espérait bien que Jésus allait les délivrer de tous ces Romains. Et Jésus dit, si quelqu'un te force à le faire, il dit pas fais-le. Il dit fais-en deux. Sois dans une disposition telle que tu es toujours prêt à donner plus que ce que l'on exige de toi. Non seulement tu ne réclames pas ton droit, mais quand on exige de toi, il faut que tu sois prêt à donner davantage que ce que l'on te réclame. Parfois nous disons, ah moi, ces gens-là, quand on leur donne ça, ils prennent ça. Jésus dit, si on te demande ça, tu donnes ça. Tu donnes plus, toujours plus. Et c'est la disposition que l'on doit avoir. Comme maman dit par exemple, passe le balai dans la cuisine. Eh bien, on va, on prend le balai, on passe le balai dans la cuisine. Et maman revient et dit, mais la table, elle est pleine de miettes. Et l'enfant dit, mais tu m'as dit de passer le balai dans la cuisine, pas de nettoyer la table. D'accord? Même si elle a vu la table. C'est une disposition qui montre qu'on n'est pas prêt à donner plus que ce que on nous a demandé. Moi, je vais au culte le dimanche, le mardi, ça me suffit, le reste. Non. Jésus dit que la disposition surnaturelle qui agit dans le cœur du disciple est toujours prête à aller au-delà même des exigences. Au-delà des exigences qui lui sont demandées. L'apôtre Paul a dit à Philémon, vous vous rappelez, lorsqu'il a envoyé Onésime, qui était l'esclave de Philémon, qui s'était converti entre-temps, et l'apôtre Paul en renvoie Onésime chez son ancien maître, et puis il demande à Paul de l'accueillir, de le recevoir comme un frère. Et il ajoute ceci, il dit, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. Je sais pas qu'est-ce que ça voulait dire, cet au-delà. Peut-être que ça voulait dire affranchir l'esclave. J'en sais rien. Mais l'apôtre Paul dit, je sais que tu vas faire même au-delà de ce que je t'écris. Parce que la disposition spirituelle, surnaturelle qui agit dans le cœur du véritable croyant le pousse toujours à agir au-delà de ce que l'on exige de lui. Quand on dit, si on exige de nous l'utilisation de notre foyer, de nos moyens, de notre temps, on nous demande une heure, il faut être prêt à en donner plus, dit le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le véritable disciple ne brandit pas son droit à la liberté, mais il est toujours disposé à donner plus de temps. Jésus nous dit, Dieu nous dit, l'apôtre Paul est celui qui donne avec abondance. Et même quand nous prions, il dit qu'il peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Voilà, Dieu agit toujours avec surabondance de grâce, jamais avec parcimonie. Et il veut que ses enfants lui ressemblent et agissent de cette manière-là. Et puis aussi, la disposition surnaturelle qui agit dans le cœur, c'est la disposition à considérer aussi le besoin des autres. Verset 42 dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Et c'est dans ce domaine, peut-être parfois de l'argent ou des besoins des autres, nos cœurs naturels ont tendance à se fermer. Et on pense à soi d'abord, ou à ma famille d'abord, et on a du mal à voir parfois les besoins que Dieu met autour de nous. Et on fait cela par égoïsme, parce qu'on est centré sur nous-mêmes. On calcule, on a toujours peur de manquer. Si je fais ceci, je n'aurai pas assez pour cela. Et Jésus dit que le disciple ne doit pas même se détourner de ceux qui le sollicitent, mais il doit considérer sagement. Parfois on dit, il y a des gens qui nous sollicitent tellement, on dit, oui, mais tout le temps les gens nous sollicitent, on ne sait pas quoi faire. Eh bien Dieu dit, si on manque de sagesse, qu'on la demande à Dieu. Et il donne la sagesse. Bien sûr, on ne va pas donner à tout le monde les gens qui, on sait qu'ils vont mettre ça dans de la boisson ou quelque chose, il faut être sage dans ce que l'on fait. Mais c'est l'attitude, c'est pas tellement le geste que Dieu indique ici. Il indique l'attitude qui est derrière le geste, qui motive, c'est-à-dire cette disposition à toujours écouter, peut-être être attentif aux besoins de ceux que Dieu place autour de nous. Et être prêt, voilà, à offrir, quand on nous demande, soit de notre temps, soit de notre argent, soit de notre maison, soit de l'hospitalité, de tout ce que vous voulez. Il y a cette disposition toujours bienveillante à l'égard des autres. Je termine troisièmement, chers frères et sœurs, en disant que Jésus montre enfin que tout cela nécessite une conversion spirituelle. Tout cela nécessite une conversion spirituelle. On ne passe pas de l'inclination naturelle à la disposition surnaturelle en faisant des exercices. Ça marche pas. D'accord ? On peut pas dire, à partir d'aujourd'hui, je vais faire tous mes efforts pour être comme avec cette attitude que Jésus vient de décrire. Non, cela nécessite la présence d'une vie spirituelle, surnaturelle, donc une conversion. Jésus avait dit à Nicodème qu'il ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins d'être né de nouveau. Regardez cela en Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, il dit ici, Jean chapitre 3, et Jésus dit à Nicodème, verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut naître de l'esprit. Cette disposition surnaturelle n'est amenée que par la présence de l'esprit dans l'être. Naturellement, les hommes ne peuvent pas vivre comme cela. La Bible dit que notre cœur est mauvais, tortueux par-dessus tout. Et en Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit que ceux qui affectionnent, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ils affectionnent les choses de la chair. On ne peut pas vivre spirituellement sans avoir l'esprit de Dieu. Donc il faut une conversion spirituelle radicale. Il faut naître de nouveau. Il faut venir à Jésus-Christ. Il faut non seulement venir à Jésus-Christ, mais continuer à vivre, à nous repentir, à être converti, si j'ose dire, continuellement pour que cette vie, cette disposition surnaturelle puisse œuvrer en nous. Romains chapitre 8, les derniers versets que nous allons lire, Romains chapitre 8, verset 2, on a lu ça ce matin, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, il faut une autre loi qui régisse dans nos membres, pour que dans notre cœur, pour que les dispositions puissent être des dispositions telles que le Seigneur le décrit ici. Les Juifs, les scribes et les pharisiens ne pouvaient pas avoir cette disposition parce qu'ils n'avaient pas en eux cette vie. Et donc cette vie, elle est amenée par l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit amène sa loi, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, affranchie de la loi du péché et de la mort. Et verset 5, il dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Verset 9, il dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais vous vivez selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Et donc c'est la vie de cet Esprit en nous qui peut rendre cette application de la loi telle que le Seigneur Jésus l'enseigne ici. Quelques conclusions, chers frères et sœurs. Ce qui ressort de l'enseignement de Jésus, c'est que l'homme est profondément préoccupé par lui-même. Je vais vous dire que vous êtes, comme moi, profondément préoccupé par vous-même. Essayons d'analyser ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, c'est par rapport à nous-mêmes. Le « moi » est notre préoccupation première. bien souvent. Et c'est de ça que nous avons besoin d'être délivrés. Dans le jardin d'Éden, le diable a fait miroiter cela à Adam et Ève. Il a dit, vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Voilà, vous allez, c'est vous. Hein. Et c'est ainsi que nous réfléchissons, que nous vivons. Et nous avons besoin vraiment que l'Esprit de Dieu nous transforme. Jésus dit, c'est pas juste œil pour œil et dent pour dent. C'est pas le fait de rendre et de combien je vais rendre. C'est le fait d'être dans une disposition de cœur qui dénote que vous appartenez au royaume des cieux. C'est ce qu'il est en train de montrer ici. Et il dit qu'il faut une puissance surnaturelle pour une vie surnaturelle ici. Comment est-ce que je réagis lorsqu'on me blesse? Comment est-ce que je réagis lorsque quelqu'un d'autre reçoit quelque chose dans une même circonstance que moi, et moi auparavant je ne l'ai pas reçu? Comment je réagis lorsque honneur est porté à quelqu'un et pas à moi? Ce sont des questions auxquelles je dois répondre. Est-ce que je dis, mais moi aussi, j'ai droit à cela? Ou est-ce que je dis, mais puisqu'on n'a pas fait pour moi, il est interdit de faire pour un autre. Ça veut dire que je suis centré sur moi-même. Ça veut dire que je suis centré sur moi-même. Jean-Baptiste, lorsque les gens sont venus le voir, et puis dit, hey Jean, tu as vu celui que tu as baptisé dans le Jourdain là, mais voici, tous vont à lui, hein. Et puis Jean dit, je ne suis pas le Christ. C'est pas un problème. Hein, Thierry de Lille, il te vole ton boulot. Il fait, non, il dit, non, je ne suis pas le Christ. Hein. Il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Ce à quoi Jésus nous appelle ici, c'est à renoncer vraiment à nous-mêmes. Et il dit que si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Le disciple suit le maître. Et le maître, qu'a-t-il fait? Il a renoncé à sa gloire. Philippiens chapitre 2, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il a abandonné. Et il s'est incarné. Et Jésus dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Nous sommes appelés à travers ce texte, je crois, non pas à brandir la loi comme un droit, mais à reconnaître que Dieu nous a fait grâce et que nous n'avons aucun mérite, aucun droit, d'aucune sorte. Nous n'avons aucun droit à l'égalité de traitement, aucun droit à nous venger, aucun droit à quoi que ce soit. Prenez tout ce à quoi nous disons nous avons droit. Nous n'avons pas droit à cela. Tout est pure grâce. Nous n'avons même pas le droit de vivre. Tout est pure grâce. Et Jésus dit que le disciple véritable, il a un cœur qui renonce à ses doigts, qui n'insiste pas comme une proie à arracher sur ses doigts, à l'image de Jésus-Christ lui-même. Que le Seigneur nous aide à vivre de cette manière pour la gloire de son nom.